that for us, please?
The voice of the world, the sound with the beat, the sound that sets you tapping your feet. Radio.
What time is it?
Ow!
Dinner time, boo!
You're listening to Hang Time.
You know who the best planet game is? Me, Mars Blackman. And I'm way above the rim, demonstrating some serious hang time.
Hi, this is Alex Russell.
This is Natural Self.
Yo, what's up?
My name's Aaron Jerome.
Hi, this is Omar.
This is Alex Cowan, aka TM Duke.
Yo, this is Camp Fiddle.
Hey everybody, this is Stephanie McKay.
This is Hope Paper from Fat Freddy's Drop.
With DJ Mars.
Mars.
With Mars.
Mars B.
With Mars Blackman.
Goodbye, Mars.
Salut à tous, bienvenue sur le 88.8 radiogrenouille.com si vous êtes connectés. Ce soir c'est Jill qui est à la réalisation de cette émission, Mars Blackmon et Elodie Rama au micro. Bienvenue dans Hang Time, saison 8, épisode 13. Bonsoir Elodie.
Bonsoir Mars Blackmon.
Ça va bien?
Ouais, très bien, et toi? As-tu passé une bonne semaine?
Plutôt pas mal. Et puis ce soir on va parler de ce que tu nous as ramené d'un événement qui s'est passé il y a un peu plus de 5 semaines du côté de l'Olympia. On était allé voir Fat Freddy's Drop et tu avais eu la chance de les rencontrer.
Ouais, tout à fait, j'ai pu les rencontrer, j'ai eu droit à une interview et c'est ce qu'on vous réserve pour les minutes à suivre.
Fat Freddy's Drop ce soir dans Hang Time, plein de nouveautés également et puis on retrouvera en fin d'émission, ça fait un petit moment qu'on les a pas entendus, nos amis du Hoopcast avec Erwan Abotrette qui sera en direct avec nous tout à l'heure pour décortiquer un petit peu le mois de NBA qui s'est passé, vous savez qu'on adore ça dans Hang Time et puis on démarre tout de suite, on vous met tout de suite même dans le vif du sujet et dans l'ambiance avec un track de People Under the Stairs extrait de leur tout nouvel EP avec un featuring de Greg Nice, ça s'appelle Runaway, bienvenue dans Hang Time.
Immolate the internet, let them debate it. Later is the Kelly Slater of the crossfader, you know. Live like 85, Dougie.
This is called the show.
Yo, 6 minutes and I'm on that rap stuff. Watch me lean with the sippers while they on that trap stuff. Stay so buff on the hype, no bluff. LA, the representatives, the executives, kicking flavor, watch your behavior. You tell a neighbor that the B is invaded, so watch the brothers be faded. With the big homie Greg, get in, I, the D.I., the E-Slot, from Cali to the Bronx, it don't stop. Oh.
Shit is hard and the bass is slapper. We rise to the top.
top light, smoking the studio. Bust mad rhymes in the circle, you can call the Bacoolio. Atomic Bingo, alive like Ringo. Got them bugging like a primo, keep a stack like Pringles. They call me Dolomite, they all nighty, all righty to the break of dawn. What's the name of the song? It goes.
Under the Stairs, ils sont de retour dans Hangtime avec ce nouvel EP qui s'appelle Getting Off the Stage Step 1. On reçoit donc ce soir Fat Freddy's, qui sont des habitués d'Hangtime. Ils avaient été nos parrains lors de la seconde saison de cette émission. On les a souvent suivis. On avait eu le plaisir, vous les entendez en plus dans le générique d'Hangtime chaque semaine. Vous entendez Opepa qui nous avait fait un petit drop lors de leur dernier passage sur Paris à l'Élysée-Montmartre. Et ils étaient à l'Olympia dans le cadre de la tournée de leur nouvel album qui s'appelle Base. Ils étaient à l'Olympia, on avait eu la chance de les rencontrer juste un petit peu avant. On va s'entendre cette interview dans quelques instants, mais d'abord on se met tout de suite dans l'ambiance de ce nouvel album Base avec un track qui s'appelle Novak.
If they ever
Novak, premier extrait de cet album de Fat Freddy's qui s'appelle Base. Et puis justement, bah, j'en profite, Elodie, puisque tu as passé un petit moment. Avec qui t'étais exactement?
Alors avec Joe Dookie et Fitchy.
Ça c'est plutôt un coup de chance parce que Joe Dookie donne pas beaucoup d'interviews.
Exactement, je me suis sentie quand même plutôt privilégiée, il faut le dire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec ces deux membres du groupe Fat Freddy's Drop pendant une bonne demi-heure. Et ce qu'on en a sorti, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés pour ce nouveau disque. Des nouveautés dans la manière de créer, dans la manière de composer les morceaux. Donc voilà, donc tout... Pour résumer, Baze, c'est créé assez différemment des autres disques. Il y a eu plusieurs mois d'immersion en studio pour créer les nouveaux morceaux qui composent Baze, alors que sur les précédents opus, le groupe de Fat Freddy's Drop avait l'habitude de composer pendant les tournées, puisque... Il faut savoir que le groupe Fat Freddy's Drop tourne quasiment tout le temps. Donc c'est entre les balances, les répétitions qu'ils peuvent composer en jam session. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle ce nouveau disque s'appelle Baze. C'est le nom du studio dans lequel ils ont enregistré et composé tout ce disque. Et donc voilà, j'ai voulu leur demander dans un premier temps pourquoi ces changements étaient visibles aussi dans l'artwork.
The same company that we've been working with the same people.
Yeah.
Early albums, Dallas did some of the drawings for the first albums, but we've always worked with a company in Wellington called Inject Design. But I think it's a little bit darker and more reflects the mood of the music, I think. Mm. And the kind of direction of this, where this album went, so it's a lot more electronic, this album.
Un album un petit peu plus électronique, comme il le disait, et puis surtout, bon, il travaille toujours avec la même bande depuis le début. Alors c'est vrai qu'un artwork qui a énormément évolué, de Based on True Story, avec cette pieuvre qu'on retrouvait partout, surtout les visuels, les maxis qui ont suivi, puis le fameux Dr. Bundinga et ses cartoons un peu particuliers, le style très épuré de Blackbird est magnifique d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure de cet oiseau qui a fait parler de lui un petit peu partout en France, c'est là quand ils sont venus.
Et puis,
notamment à Caen, tout à fait. Et puis, justement, cet album très sombre avec des néons rouges, le logo de Fat Freddy's, écrit Baze, ce qui reflète un petit peu pour eux le côté un petit peu plus sombre de cet album, un album un petit peu plus électronique, et donc c'est ce qu'on avait envie de leur demander également, changement de visuel mais également changement de style.
We know it's different but we like it. It's good. And I think we really enjoyed making it, even though it is a bit darker and coming just to have more time to work on it and not having to rush away and do any touring was really good fun. To be able to really get in there and spend a lot of time working on.
Donc ils ont beaucoup apprécié composer ce nouveau disque parce que pour une fois, ils avaient le temps de se poser pour penser à des arrangements pour ce disque et ne pas avoir à être dans le rush tout le temps. Donc c'est un peu plus sombre, mais c'est vraiment une atmosphère qu'ils aiment beaucoup et qu'ils ont envie de défendre.
Alors c'est la particularité de cet album, justement, ils ont décidé de stopper leur tournée pendant plus de 6 mois pour pouvoir se consacrer au studio. On connaît le mode de fonctionnement, tu l'as dit tout à l'heure, de Fat Freddy's qui compose ses morceaux sur scène. Ça donne des concerts épiques et puis quelques mouvements de flottement également, parce que répéter et composer en même temps qu'on joue, c'est pas simple. Mais voilà, mais en tout cas, ce qui était drôle et ce qui ressortait de cette interview, c'était cette... Pour la première fois, cette trouille d'être sur scène.
Exactement, c'est vrai que pour la toute première fois, ils se retrouvaient à présenter des morceaux qui n'avaient jamais été joués, comment dire, face à un public. Donc c'est vrai que cette peur, ce trac, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour eux. Donc cette première partie de tournée, parce que voilà, on avait cette tournée automnale que nous avons pu voir avec Mars Blackmon à l'Olympia, mais la tournée reprend également en 2016 partout dans le monde. Et cette tournée automnale était vraiment l'idée de prendre la température sur ce disque et de tester les morceaux. Voilà. Quelque part, il m'expliquait aussi que les arrangements étaient mouvants, vraiment mouvants pendant cette tournée, parce que les arrangements qu'ils ont fait pour le disque, forcément, il fallait les penser autrement pour le live. Et donc, ils testaient vraiment des choses au cours de cette tournée.
Et on va s'écouter un second extrait de cet album, justement, pour voir cette noirceur, cette atmosphère un petit peu plus moite, on va dire, de cet album Base, un track qui s'appelle Macan. Macan, second extrait. Bon, vous en a joué quelques-uns des extraits de cet album Base dans les semaines qui ont précédé. Cet album, donc, énormément travaillé en studio, et c'est assez drôle de les voir parce que c'est vrai que moi je les ai beaucoup vus en concert, Fat Freddy's, j'ai vu chacune de leurs tournées, et c'est la première fois que je les vois aussi tendus, à tel point qu'il n'y avait pas de kick. Alors ça venait peut-être de ça non plus, ou c'est le son
vrai,
de l'Olympia.
Un concert sans kick.
Un concert sans kick, sans basse, donc c'était assez curieux. Ça, ce qui n'a pas empêché d'avoir une ambiance incroyable. Donc on n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été avec ce petit rajout. Mais c'est vrai qu'on les sentait un petit peu plus tendus. Et donc tout ce travail en studio, est-ce qu'ils sont arrivés un par un pour poser leurs instruments, ou est-ce que finalement ils ont travaillé ça en live band tous ensemble?
We wrote a lot of the tunes together in the playing together, we wrote a lot of the tunes. How long ago? Maybe a year before we started in the studio.
We initially came together.
Oh yeah.
And then did a lot of.
It was like leftovers from Blackbird. Yeah. So we had lots of ideas from Blackbird that never made it.
And lots of jams. That were recorded quite well.
Improvised.
A lot of improvising, and we gathered all that up, had a listen, and then used that to begin.
Alors les deux en même temps, ça s'est fait un petit peu progressivement. Il y a beaucoup d'idées qui sont arrivées de la tournée de Blackbird, malgré tout, de quelques jams qu'ils ont fait ensemble également, puisqu'ils enregistrent tout le temps, tout ce qu'ils font. Là, au lieu de se mettre tous ensemble et de recommencer, ils ont pris des idées à droite, à gauche, etc. Et ils se sont mis à travailler en studio. Donc on le disait tout à l'heure, Fat Freeze Off, ça reste un groupe d'impro.
Ouais, ça reste un groupe d'impro qui improvise tout le temps entre deux temps morts. Et donc, cette idée de devoir composer quelque part dans un studio, est-ce que ça tue pas, l'idée de l'improvisation?
It's the name that we've been calling our studio.
Ah, okay.
It's a feeling, quite a new studio to us. I mean, we've been there only a couple of years, and it's a... It's a really good space for recording. To be honest, we couldn't really think of another name.
Yeah, we tried.
But yeah,
there were some ridiculous names for the album. And then it was like probably about four or five different really kind of like long names.
Yeah.
And then Moose said, call it Baze. And he said it in a way that was just, he was sick and tired of hearing us talk about it. It was just like, we'll call it Baze. And then that was it. It was like, okay, we'll call it Baze.
Alors oui, ils ont passé beaucoup de temps en studio. Cette improvisation qui donc a été un petit peu mise de côté cette fois-ci pour un travail beaucoup plus poussé dans ce studio, donc qui s'appelle Baze. Ils en parlent justement. C'est un bel endroit pour enregistrer, un bel endroit de travail. Et c'est en travaillant justement qu'ils se sont donné l'idée d'appeler ça Baze parce que ça tombait sous le sens. C'est la première fois qu'ils passaient autant de temps en studio, ce qui donc répond à notre question sur l'improvisation. En effet, ça a été beaucoup plus travaillé. Ils disaient tous les deux en même temps que pourtant ils avaient prévu au départ énormément de noms aussi stupides les uns que les autres.
C'est
pour
vrai
cet
que
album.
Celui-ci s'est posé comme une évidence au final.
Exactement, mais on vous parle de Fat Freddy's plus sombre, plus dark, mais ça reste aussi ce fameux son qu'on entend, cette espèce de soul, reggae, dub à travers ce morceau qui s'appelle Sling and Arrows. Fat Freddy's Drop avec Sling and Arrows, nouvel extrait de cet album. Base, alors Elodie, tous ces changements, justement, l'artwork, la direction artistique, la manière de concevoir, est-ce que finalement Fat Freddy's serait pas devenu une sorte de nouvelle entité ou un nouveau groupe ?
Just locally, there's a lot of good up and coming talent, young people. Some musicians that we have a wee bit to do with is in Wellington musicians, people like Thomas Oliver, who's a solo blues singer-songwriter, but he's young, but he just has a really old classic kind of feel to him, and he's an excellent singer, and he plays the Weisenborn, which is like a slide guitar thing, but no, he's extremely talented.
And we're gonna take him around Australia.
Oh, great!
Next year as a support act, so we'll try and give him a hand to get his name out there.
Mm-hmm. Other friends of mine that have just finished an album, Pacific Heights, which is that album will be quite big. It's one of the members from a band called Shapeshifter, so he left that band to make his own music, Pacific Heights. That's a really that album will be big in New Zealand and hopefully big overseas, I think. And he just lives around the corner from us.
Alors on a une petite inversion de question, et là ça concernait plutôt les nouveaux talents à découvrir en Nouvelle-Zélande.
Oui, on voulait leur poser la question quand même de la Nouvelle-Zélande, qui est un vivier pas possible, qui est plus calme en ce moment qu'il y a quelques années, mais on aimerait bien savoir quels sont les artistes à découvrir.
Oui, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses en Nouvelle-Zélande. Nous-mêmes on passe pas mal de choses sur Hangtime venant de Nouvelle-Zélande. Je pense à Lady Six par exemple, dont on parle justement, que les gars du groupe ont pu évoquer. Lady Six, qui a fait notamment des voix pour quelques disques de Fat Freddy's Drop et qui est maintenant une célébrité en Nouvelle-Zélande et qui a parcouru pas mal de villes françaises en tournée. Et il y a un jeune talent qui leur tient à cœur et qui s'appelle Thomas Oliver et qui est un talent de Wellington, donc la ville dans laquelle tout le groupe Fat Freddy's Drop est basé. Et ce jeune Thomas Oliver, qui est plutôt dans une veine soul folk, vraiment en voix guitare, sera avec eux en tour support sur toute la tournée australienne.
Oui, il faut savoir que quand même l'Océanie reste le terrain de jeu préféré du groupe. Ils tournent énormément, ils jouent énormément, presque deux fois par mois dans leur propre pays. Ils continuent de tourner. Ils reviennent en France au mois d'avril d'ailleurs, je crois vers Toulouse, Clermont-Ferrand, des coins comme ça. Il n'y aura plus de tournée à Paris, il n'y aura plus de date à Paris, je crois, mais vous aurez la possibilité de les voir. Alors Fat Freddy's, c'est un phénomène néo-zélandais, puisqu'ils avaient vendu dans un petit pays comme celui-là plus de 100 000 copies, je crois, de leur premier album, ce qui est phénoménal. C'est pratiquement une personne sur 10 qui avait cet album. Est-ce que c'est, parce qu'ils travaillent toujours seuls, en indépendant, est-ce que c'est compliqué pour eux de travailler toujours de cette manière ?
it's hard to do anything else other than what we're doing with Freddy's, because it does involve a lot of work for all of us. We've got good management, but the band is very involved in all the decisions, and it's always quite hard to get seven people together for a time consuming. And it's busy.
Yeah.
And takes a lot of work, but we seem to be making it. It seems to be working. I think we're all doing a good job, but it does take time.
Alors effectivement, être indépendant, c'est pas toujours facile, surtout dans un groupe comme Fat Freddy's Europe, où on a quand même pas mal de monde sur la route. Et comme c'est un groupe, il y a vraiment les valeurs du groupe qui sont mises en avant, c'est-à-dire que chacun a son mot à dire dans les décisions qui sont prises pour le groupe. Et donc, chaque décision prend du temps, chaque disque à sortir prend du temps, et c'est vraiment peut-être la difficulté qu'ils auraient à évoquer dans l'idée de l'indépendance. Mais après, voilà, toute la spécificité de ce groupe, son originalité et son identité, c'est fait dans cette indépendance.
Et puis ils sont sept, surtout, sur scène, et il faut savoir que là, tu as eu la chance d'avoir Jodouki et Fitchy, mais tout le monde répond aux interviews, joue le jeu des interviews, et tout le monde met la main à la pâte pour garder juste ce qui leur permet de garder ce statut d'indépendant, puisque chacun... aide un petit peu à faire certaines choses, certaines promos, donc c'est pas toujours les, entre guillemets, les leaders qui sont là. Et s'il y a bien quelque chose qui est étonnant dans ce groupe, c'est par exemple le tromboniste Opepa, qui est le meneur de troupe, le meneur de revue presque.
C'est presque lui la star, en fait.
Totalement, sur scène, c'est lui la star, il vient avec des tenues aberrantes, il se met à danser, c'est lui... il est chauffeur de salle, du moins il n'y a pas d'autre mot. Outre ses compétences gigantesques en manière de cuivre, ça reste un concert qui vaut par sa présence, puisque ça, y a des moments assez hypnotiques, mais il est là pour les booster. Ils sont tout le temps sur scène, on l'a dit. Ils t'ont parlé de bons moments et de moins bons moments. Quels étaient les bons moments, par exemple, qu'ils avaient vus avec toi?
Alors les bons moments, ils n'ont pas réussi forcément à m'en citer un en particulier. Ce que eux m'ont dit, c'est qu'ils vivaient vraiment pour être sur scène, pour vivre les moments présents sur scène, parce que à chaque concert se passe une nouvelle chose. Il y a une communion différente qui se fait entre eux et avec le public. Et donc c'est vrai que leur bonheur, leur extrême bonheur, vient de ces moments passés sur scène. Ensuite, les mauvais moments, il n'y en avait pas beaucoup, d'après eux, mais ils m'en ont cité quand même deux. Le premier étant d'avoir eu la malchance de passer tout un trajet en avion pendant la finale de la Coupe du Monde de rugby. On rappelle quand même que la Nouvelle-Zélande était finaliste. Donc pour des supporters de l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'était un peu rude.
Ah, surtout pour le sport national, c'est plutôt compliqué.
Exactement. Et ensuite, oui, la deuxième chose, c'était le vol le jour avant l'interview du plus gros produit qu'ils ont à vendre en merchandising, à savoir un surf.
Oui, c'est une planche de surf.
Avec le Blackbird, justement.
Avec le Blackbird, aux couleurs de Blackbird, qui a été chouravé, lamentablement, voilà. Un type qui a fait une photo avec ça.
Au nez
et qui s'est barré
à la barbe du groupe.
Bon, après, quand on voit Fitchy, on comprend qu'il n'a pas trop pu lui courir après. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui est capable de leur courir après. Ils sont un peu grassouillés, les garçons.
Mais finalement, l'histoire s'est bien terminée, puisque le fan en question est revenu redonner le surf.
Alors,
c'est bien terminé.
Alors, l'histoire est... Déjà, il faut savoir qu'ils ont quand même la photo qu'ils ont prise avec le type, parce qu'ils avaient pris la photo, le type est parti, mais la photo, ils l'ont largement diffusée sur sur Internet, une sorte de plan Vigipirate néo-zélandais. Et le type est venu de Caen à Paris, avec le surf en train, et leur a rapporté. Et donc, ils leur ont offert un disque et des places pour le concert suivant, je crois. Donc c'est tout est bien qui finit bien, et il faut avouer, largement pardonné avec les Néo-Zélandais. Mais nous, on n'a pas pu résister à vous jouer un de mes morceaux préférés, moi, de Fat Freddy, celui qui m'a largement fait perdre le contrôle une fois de plus dans cette soirée à l'Olympia. Ce morceau, Roadie, extrait de leur premier album Based on True Story. Thank you.
You know it feels so good when I know you're skanking with me. So good when I know you're skanking. So good when you do. Yes, it feels so good when I know you're rocking with me. So good when I know you're rocking. So good when you do.
Every minute when we get on a bender, we take the music to the limit when we love it and live it.
Say, where do you go? Where do you go? Well, I'd really like to know. Oh, where you go? When it all comes down to it and the pressure's on for life, how do you keep on skanking through the darkness to the light? How do you ride through like it's your nature too? Well, I've been watching you, watching the things you do. I see the way you groove, make me believe your ways. Where do you go to play? Show me that peaceful place, a peaceful place, yeah. You know it feels so good,
so, so good.
When I know you're skanking with me.
So good when you do.
Yes, it feels so good,
so, so good.
When I know you're rocking with me.
Sheila rock the microphone. Who's that? Fat Freddy's me, we all up in the zone. Special edition, Seth Allen's daughter, I'm self-created. I had a plan to elevate and so I elevated. Up in the sky, to the heavens going far beyond. Expectations for myself and where I came from. Open your eyes and take a look at what's before you now. You didn't know how to do it, yo, let us show you how. I got the lyrics in, I've got the beats. Put it all together, collaboration complete, no defeat. Even if you don't like us, you will.
For the love of music, we do it for the love of music.
Do it
for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music. Do it for the love of music.
The frame, mentally project positive all day. Expand the limit down to the one drop minor. All together on the fire, fire and push through the frame. Mentally project positive all day. Expand the limit.
Do it for the love of music. Whoa.
Fatwadis Drop avec ce vieux track extrait d'un maxi vinyle en plus, c'est pour ça qu'il vient de sauter, qui s'appelle Roadie, et c'était le Fat Freddy's Edit qui est un peu plus court que d'habitude. Allez, on est bien content de retrouver nos amis du Hoopcast ce soir. Ça fait un long moment qu'on les a pas entendus d'ailleurs, depuis le mois de juin dernier. Si vous ne connaissez pas le Hoopcast, c'est tous les jeudis sur Dailymotion et via le site Basket USA, et vous retrouvez également en podcast audio sur iTunes. Et le générique, c'est ça.
Open Bird takes Rambis. 1 second. The Boston.
Michael. Two. Michael. Paul. Fire.
Yes! Oh, does it again.
Kicks it in midcourt. Kobe.
Bryant for the win.
Bang!
Kobe. Sir!
Jefferson against Tyrone Lue. Baseline right, he backs up. He's got it again. He's way too good. He steps around Lue.
Alain Mattei, Thomas Dufan et Erwan à votre tête, la dose hebdomadaire de NBA. Et on a avec nous le meilleur basketteur des trois, on va dire, mais le plus jeune retraité de tous. Salut Erwan, ça va?
Ah, Thomas, il va faire la tête. Hein.
Ouais, mais bon, là, on peut dire que des trois, tu as été le meilleur dans In Your Prime, on va dire. Et puis donc jeune retraité, alors ça tombe bien parce qu'on va parler d'un autre qui a annoncé sa retraite et un peu vampirisé l'actualité de la NBA et de la Ligue, on va presque pour l'année à venir. C'est évidemment la retraite de Kobe Bryant, qui a écrit une lettre d'amour au jeu pour annoncer sa retraite. Quand on écrit une lettre d'amour comme ça à sa nana, est-ce que c'est bien de la tromper comme il est en train de le faire en ce moment?
Bah, il la trompe pas, moi je suis pas, j'ai lu un petit peu tes posts Facebook. Il y a deux côtés où faut cette annonce. Il y a, faut se rappeler de ce qu'il a réalisé toute sa carrière, 20 ans sous la même équipe, 5 titres.
C'est ça.
Voilà, de dire au bout d'un moment de vouloir s'émanciper du Shaq, avec tout ce que ça a comporté, pour finalement gagner sans lui en étant le numéro 1. Voilà, marquer 80 points dans un match. Voilà, c'est un mec qui a marqué l'histoire, qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Et quand je parle des meilleurs joueurs, je parle au moins un top 5. C'est, oh là, le top 10, allez, si on est large. Après, il y a ce qu'il fait en ce moment. Et en ce moment, effectivement, là, je te rejoins, c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai dit dans le podcast la semaine dernière, il prend un petit peu en otage la franchise des Lakers. Et la franchise des Lakers, c'est pas une équipe de N3. Et déjà qu'ils ont une équipe un peu en carton. Ce qu'il fait, alors c'est bien, ça fait un peu tourner des Rolling Stones. Les gens sont contents de les voir pour la dernière fois. Mais au point de vue basket, la sortie pour l'instant, immédiatement, elle est réussie. Basketement parlant, elle est catastrophique.
Mais alors, tu parles d'équipe en carton. Est-ce que sur le papier, D'Angelo Russell, Roy Hibbert, Lou Williams et ses deux nanas, Kobe Bryant, Meta World Peace, bon, évidemment, c'est pas l'assurance truc, mais Nick Young et ce qui suit, et Clarkson, qui est un futur crack en devenir, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est vraiment une équipe en bois à ce point-là, ou est-ce que ça rend l'équipe en bois? Hier, il y a quand même une déclaration de Byron Scott incroyable qui dit que le basketball, c'est compliqué, et les gamins, ils vont s'asseoir, ils vont regarder un petit peu comment ça se passe.
Non, mais Byron Scott, alors, je rebondis sur Byron Scott, qui est une pipe incroyable, hein, qui est un mec qui, de toute façon, c'est un coach qui a quand même une vision qui n'est jamais tournée vers les jeunes et vers les étrangers, donc c'est très compliqué pour lui. Mm-hmm. C'est un mec qui marche au star system. Maintenant, l'équipe, moi, je vais te dire, en début d'année, pour en avoir parlé avec quelques collègues, on l'a trouvé plutôt sympa. Alors, tu vois, pas le playoff, vraiment, on n'imaginait pas le playoff, on imaginait faire des choses sympas. Le fait est que, quand ton coach déclare que ta saison elle va dépendre de Kobe, de l'adresse de Kobe, qui a 37 ans et qui carrosse comme un cochon, ben voilà, finalement, là, peut-être, c'est la seule chose sensée qu'il a dit, c'est que, ouais, finalement, ta saison, elle dépend de l'adresse de Kobe, donc elle est catastrophique. Après, Lou Williams, Nick Young, c'est le même profil, même si Nick Young est moins fort, ça se marche dessus, Nick Young est au placard, clairement. Roy Hibbert, qui n'est plus un pied devant l'autre depuis 2 ans et demi, et quand les Pacers avaient pété en l'air en playoff. Voilà, après, il n'y a pas non plus D'Angelo Russell, il a quand même 14 ans et demi, il ferait plus de carnage en minime France qu'en NBA, même s'il commence à trouver un peu ses marques. Voilà, en plus de ça, ils sont pas coachés et ils sont pas mis en confiance, ça fait beaucoup, quoi.
Par contre, ça t'a énervé, Nick Young, hier, il a pas pris une grosse faute quand même pour s'énerver comme ça avant-hier.
Non, mais il est ridicule. Il est ridicule, il vaut dunk, je suis même pas sûr qu'il y ait faute, mais même Anthony Tolliver, ça le fait rire. Le mec est frustré, enfin, voilà, bref.
Alors LeBron a déclaré que son grand regret est de ne pas avoir joué une finale contre Kobe Bryant. Toi, en tant que fan, quel est ton grand regret dans la carrière de Kobe Bryant? Peut-être le fait de ne pas avoir gagné le 6e titre ou quelque chose comme ça?
Non, moi c'est qu'il n'est qu'un MVP. Je pense que c'est un mec quand même, à un moment donné, qui aurait mérité d'avoir un peu plus de MVP. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et c'est peut-être, c'est souvent dans les débats ce qui revient, c'est qu'il a qu'un titre, les gens qui l'aiment pas disent ouais, mais il a qu'un titre MVP. Je pense qu'il aurait mérité d'avoir au moins un titre en plus de MVP. Après, les finales, ça se gagne, ça se perd, demande à LeBron. Hein. Mmh.
Là, il y a eu 612, au moins, interviews, notamment les dernières avec Ernie Johnson sur NBA TV, qui fait, il dit avoir tout donné pour être arrivé à 6e titre. On connaît cette obsession qu'il a pour Michael Jordan sur son palmarès, sur des chiffres à dépasser, mais qu'il a tout fait pour gagner 6e titre. Est-ce qu'il a vraiment tout fait? Individuellement, on est d'accord, mais sur le reste, tu dis tout à l'heure qu'il a pris sa franchise en otage, il l'a un peu plombé financièrement. Est-ce qu'il a vraiment tout fait, Kobe, pour arriver là?
Ouais, mais ça, après, c'est un débat super vaste. Moi, je pense que quand il dit qu'il a tout fait physiquement. Et lui, avec l'ego qu'il a quand il dit ça, c'est qu'il pense qu'il a tout fait physiquement pour y arriver. Après les choix qu'il a fait, ils lui appartiennent. Les gens qui l'ont laissé faire, ça leur appartient aussi les choix. La famille Buss lui a laissé, l'a re-signé 2 ans. Honnêtement, c'est peut-être le, si on prend le ratio pourcentage point marqué et le point dollar, c'est peut-être le contrat le plus énorme de la NBA. Mais bon, voilà, après, ça fera partie aussi de, voilà, ça fera partie des. Finalement, est-ce qu'il pouvait sortir autrement? J'ai pas l'impression.
Quand il sortira, on en parlera comme certainement l'un des plus grands Lakers de l'histoire. On retirera son numéro ou ses numéros. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le 8, le 24 ou les deux?
Bah, les deux, j'ai envie de te dire. Pourquoi? C'est dur de trancher. Il y a deux. Et en plus, c'est clairement deux numéros. Le 8, c'est son début de carrière. Le 24, c'est sa fin de carrière. Comment tu veux dissocier les deux? Moi, je le fais pas. Je retire les deux.
Alors, c'est vrai
ça
que.
Ça prouve encore le personnage. Je suis le seul mec à qui tu retires deux numéros.
Voilà, c'est ça. Alors, j'imagine qu'il y aura. Il y a ses 3 titres, les premiers, mais il te dira toujours que c'était ceux avec Shaq et qu'il préférera, lui, son préféré 2010. Il y a nos confrères d'NBA TV qui ont eu une bonne idée. Ils disaient retirer le 24 et faire une statue avec le numéro 8.
Oui, peu importe. Hein. De toute façon, ils ont des idées, ils en auront toujours. Donc oui, pourquoi pas.
Alors, on cherche toujours les comparaisons, Jordan, Kobe, etc. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, honnêtement, toi qui vois du basket depuis quelques années maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce que fait Steph Curry en 2015-2016, c'est du jamais vu?
Bah, c'est du jamais vu, clairement. C'est du jamais vu. Après, c'est sur une période pour l'instant qui est encore courte. Tu vois ce que je veux dire, c'est encore une période courte, mais ce qu'il fait, c'est du jamais vu. Plier les matchs comme ça avec une adresse aussi incroyable, c'est pas une adresse à la Ray Allen, attraper, shooter, c'est une adresse où il se crée des tirs, c'est une... et puis il y a toute une équipe qui marche derrière lui au diapason, un Klay Thompson qui est devenu maintenant un stopper défensif, mais qui met un petit peu moins de points que l'année dernière, bon, même si en ce moment ça va mieux, mais qui était quand même un shooter là-bas, c'est devenu un stopper autour de lui, des mecs comme Draymond Green s'éclatent, ben voilà, ils ont créé autour de lui quelque chose, une armée. Mais ce qu'on voit, c'est les pourcentages. Après, on a déjà vu des mecs, Jordan mettait 38 points par match sur une saison. Il en est pas encore la Steph Curry. Mais en tout cas, ça fait longtemps, voire jamais vu, qu'on a vu un mec autant dominé avec une facilité. Parce que Steph Curry, c'est le basketteur que tout le monde a envie d'être, un physique banal et qui avait une technique incroyable. Et c'est ça, surtout, qui le rend attachant.
Parce que c'est ça, c'est un degré de confiance complètement fou. Dès qu'il se gratte le genou, il y a son défenseur, il y a 4 mètres qui sautent devant lui parce qu'il pense qu'il va shooter. S'il est pris
mais
à 2,
il shoot
à... Ah bah oui, s'il est pris à 9 mètres, il shoot à 9 mètres.
Il fait des exercices de handle et de tir qu'on n'a jamais vu avec des balles de tennis, des trucs, main droite, main gauche en même temps. Enfin, tu vois, il bosse, je pense qu'il bosse comme un fou et le mec a du talent en plus, donc ça marche.
Alors après un gros mois de compétition qui vient de se passer, quelle est ta plus grosse surprise et ta plus grosse déception? Forcément, on peut déjà faire un petit bilan au bout d'un mois.
Alors ma grosse surprise, c'est Paul George, mais c'est une agréable surprise parce qu'il revient vraiment au top et c'est un joueur que j'adorais. Il revient plus fort, il me régale vraiment. Après, ces mecs sont un petit peu dans l'ombre parce que Steph Curry fait des choses incroyables, mais ce qu'il fait, c'est incroyablissime. Paul George, vraiment. Et puis le fait qu'il joue un petit peu poste 4 de temps en temps au large, il me régale vraiment. Il a pris une vraie dimension. On donnait pas cher de la peau des Pacers. Et les mecs sont clairement dans la course au playoff. Ils vont certainement y aller. Et ça, crédit à Chris Paul et à Frank Vogel qui a su se réinventer aussi avec Larry Bird sur le small ball. Et ma déception, les Clippers, même si je suis pas leur plus grand fan, je trouve ça quand même assez tragique. Je trouve ça assez tragique parce qu'on s'en prend Allen Stephenson ou Josh Smith. Le recrutement et le coach de cette équipe, c'est qu'il revient quand même à la même unique personne, c'est Doc Rivers. Aujourd'hui, il y a des rumeurs de transfert autour de Allen Stephenson qui fait pas le taf, alors que c'est son fils qui est quand même le deuxième meneur attitré et qui est titulaire quand Chris Paul n'est pas là. Et quand la boutique ne tourne pas, c'est lui qui est sur le terrain. Voilà, je pense qu'il y a un vrai quid autour de Doc Rivers quand même et des Clippers.
D'ailleurs, si vous êtes fan de NBA et de basket en général, vous voyez certainement ces vidéos de ce jeune gars qui fait des imitations de chaque joueur NBA et qui là a fait une imitation de toute l'équipe des Clippers. C'est à mourir de rire, c'est tellement bien vu.
Elle est tellement réaliste.
Et je suis obligé de te poser la question. Est-ce que tu as bondi ce matin en voyant Kevin Garnett écrabouiller Blake Griffin? Et est-ce que ça t'a pas fait bondir de pas voir que c'était numéro 1 c'était pas numéro 1 du top 10 de la nuit?
Ouais, je me suis fait mal au dos. Mais j'espère que mes amis de NBA Extra l'ont mis numéro 1.
Bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors tu parlais de Paul George, on parlait de Steph Curry. Dernière question. Golden State, Indiana, ce soir. Première défaite pour Golden State ou alors ils assomment définitivement la concurrence?
Non, Golden State est fatigué. Pardon, Indiana est un petit peu fatigué et Golden State est sur un nuage. Ils sont fait bouger à Toronto et pourtant dans la fin ils gagnent. Ils ont une confiance que les autres n'ont pas et je trouve les Pacers qui sortent d'un road trip un petit peu émoussés physiquement. Non, je mets Golden State tous les jours.
Golden State tous les jours. Erwan, merci. On sait que également tu travailles avec nos amis de la petite lucarne de Bein Sport. C'est quoi le programme sur Bein pendant cette fin d'année au niveau NBA?
Il y a les matchs de Noël qui arrivent là. Le 25, on va mettre tous les matchs de Noël en direct et voilà, on va se régaler.
Eh ben écoute, on sera là connecté avec toi. Merci beaucoup Erwan, le Hoopcast, vous enregistrez ça demain ?
C'est ça, demain. Parfait, on sera au rendez-vous.
Ça marche. Merci Erwan, bonne soirée à toi et
salut
à tout bientôt.
À tous.
Salut. Voilà, un petit peu de NBA. Désolé, Elodie, on t'a un petit peu mise de côté là. Non, tu as été benchée.
Je vous laisse. Je ne suis que dans le terrain amateur, donc je vous laisse échanger sur Kobe Bryant. Je suis ça de très loin. Donc,
c'est l'heure du Track of the Week.
Voilà, là, ça va être plus simple pour moi. Donc, le Track of the Week cette semaine, c'est Chet Faker et Marcus Marr. Burst des cartes.
Extrait de tout nouvel EP dont on va vous parler et reparler. Et on a de la chance, on va pouvoir jouer ce Track of the Week qui fait près de 7 minutes. On va pouvoir vous en jouer une grande partie. C'est Burst des cartes dans Ink Time.
Track of the Week. I don't know where I stand.
Faker et Marcus Marr, Birthday Card, c'est le track of the week de l'épisode 13 de cet épisode 8. On vous rappelle qu'Hangtime démarre depuis cette année à 18h48 avec 12 minutes d'échauffement qu'on appelle le tip-off.
Oui, que vous pouvez retrouver sur Mixcloud d'ailleurs.
Ouais, une sorte d'échauffement, un best-of de la semaine précédente. Cette émission, vous la retrouvez également en rediffusion demain à partir de 15h et sur le site radiogrenouille.com grâce au podcast Les plus rapides de la Terre de notre ami Gilles, qu'on remercie d'avoir réalisé cette émission. Et puis Elodie, une petite actu qui te concerne puisque ton nouveau clip vient de sortir sur YouTube, une version acoustique de The End of Something.
Ah oui, exactement. Qui est passé d'ailleurs plusieurs fois dans Hangtime, il me semble.
Morceau de DJ Mohar que donc vous retrouvez sur la page Elodirama.
Sur Facebook et également sur YouTube, pardon.
Avec en plus un track gratos.
Exactement, vous pouvez aller le télécharger gratuitement sur ma page Bandcamp.
Eh bien, on va écouter ça avec grand plaisir. Et on l'écoutera d'ailleurs la semaine prochaine dans Hangtime. La semaine prochaine, on recevra Free Worker dans le cadre de notre passerelle avec le futur Basics Radio Show. Et ce sera notre dernière émission de 2015, puisqu'ensuite, il sera le temps de prendre des vacances bien méritées. Bonne semaine, Elodie.
Bonne semaine, Mars Blackmon.
Salut, restez calés sur les 3-8. Ciao.
It's easy to cover Mars Blackmon.
No money is me.
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 From back in the day.
Mars?
Yeah.
Is this really it?
You're gonna retire?
Going to quit?
Is it true?
Yes, Mars.
You sure?
Yes, Mars.
Really? Truly?
Cross your heart and hope to die and stick a needle in your eye?
Yes, Mars.
So long.
Goodbye.
Farewell.
For good.
Again?
Goodbye, Mars.